Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui t'es sûrement rué sur le documentaire interactif Making of Karateka suite à notre précédente émission. Émission où d'ailleurs on t'a embarqué dans une longue interview avec Jordan Mechner, auteur d'un jeu vidéo qui a acquis le statut convoité de titre culte devenu une franchise, Prince of Persia. Mais je me rends compte qu'on ne t'avait pas présenté le jeu original lui-même, et ça c'était intentionnel de notre part. Jordan a commencé comme développeur très jeune, encore au lycée, sur un micro qui est vu maintenant comme primitif, l'Apple II, mais qui à l'époque donnait une puissance incroyable à ses possesseurs. Créer de la logique, du graphisme, des sons, de l'interaction, et dupliquer par soi-même ses créations pour en faire profiter les autres. L'inverse des bandes d'arcade et des consoles de jeux à cartouches. C'était l'ère des ordinateurs 8 bits où l'Apple II émargeait à côté des TI-99, TRS-80, Commodore 64 et pour l'Europe des ZX Spectrum et autres Thomson. Et ça, on en a déjà causé. Là, maintenant, on va parler donc de la création d'un jeu qui a rendu son auteur mondialement célèbre et comment il est passé du statut d'auteur-artiste, qui doit quasiment tout faire, à celui de directeur artistique. Et entre-temps, Jordan Mechner a goûté à d'autres formes de création, comme le cinéma ou la bande dessinée. Ce n'est pas rien. S'essayer à des créations moins interactives pour y piocher de quoi rendre celles sur ordinateur encore plus intéressantes. La contrainte et le mouvement. Ce qui définit bien, finalement, l'histoire de sa famille, comme il le raconte justement dans sa bande dessinée, Replay, Mémoire d'une famille. Enfant du futur immédiat, nous allons aussi découvrir avec Jordan Mechner comment il a délégué la fabrication sur ce qu'il a créé poli, chéri pendant des années. Des adaptations sur d'autres plateformes informatiques, l'arrivée d'autres développeurs, dessinateurs, musiciens. L'émergence d'autres compétences, comme dans The Last Express, où on n'est pas loin de la motion capture, ou encore la joie de tout chef sachant cheffer, la gestion de projet, du budget et RH. Que du bonheur! Oui, la transformation de sa propre carrière est un sujet important, parce que finalement, pourquoi l'image du personnage en miroir de Prince of Persia à cet aspect visuel ou les contraintes qui ont dicté la création de la souris dans le tout premier jeu? Oui, c'est super intéressant sur comment l'imagination permet de transformer une limitation technique en création géniale, mais l'informatique n'est pas figée et évolue toujours à une vitesse fulgurante. Des adaptations sur les autres plateformes, on voit que chaque sous-traitant l'a fait à sa manière, soit du moyen, soit du très bon, voire même de l'excellent pour la Super Nintendo, ou l'intro des versions pour ordinateur japonais. Que l'art de programmer des jeux en assembleur se perde n'est pas une mauvaise chose. Des frameworks comme Unreal Engine ou Babylon.js vous permettent de vous consacrer plus sur la mécanique du jeu, de faciliter les portages et en chasser les bugs. Enfin, on suppose. Revenons au premier titre de la saga par son intro. Prince of Persia s'ouvre sur un texte où on apprend que le grand vizir Jafar a profité du déplacement officiel du calife pour prendre le pouvoir. Mine de rien, on est direct dans l'ambiance, par la musique et surtout ce carton-titre qui fait furieusement penser au film des années 1930. Revenons à l'intrigue, dont la mise en scène rappelle l'ouverture de Karateka. Et un autre carton explique que la princesse doit épouser dans l'heure l'infâme Jafar ou périr sous la lame du bourreau. Son seul espoir est un jeune et courageux guerrier qui est actuellement au fond du donjon. Notre univers de déambulation est une vue où l'on voit plusieurs niveaux de plancher. À chaque bord, on a un changement d'écran sans même un scrolling puisque l'Apple II ne le permet pas et la plupart des portages vont garder cette absence de transition. À chaque écran, donc, ce découpage en plateforme où l'on trouvera des grilles, des fossés, des dalles truquées, d'autres instables, des dangers mortels comme des pics, des portes hachoirs, des gardes prêts à vous passer par le fil du sabre et autres périls mortels. Une heure pour monter un gigantesque labyrinthe. Le jeu a peu de bruit d'animation, à une époque où les autres plateformes games, comme Rick Dangerous, cumulaient les ennemis à l'écran et les animations cartoon. Là non, l'ambiance est différente. Tout aussi pleine de dangers, et les personnages ont des mouvements fluides comme des humains. Pas de points, pas de chrono affiché en permanence, on a un certain minimalisme, mais l'enjeu de sortir du trou dans l'heure est bien présent à l'esprit du joueur. Voilà, il y a étonnamment une économie dans la présentation qui sont dictées par les limitations techniques de la plateforme informatique originelle, et en même temps, une réelle tension menée par une ambition cinématographique, ce qui va inspirer deux jeux français ultérieurement que sont Another World et Flashback. Même s'ils étaient développés sur les ordinateurs nettement plus puissants, ils vont reprendre cette idée d'économie de moyens, de réduire l'inflation hystérique d'ennemis bruyants à l'époque, pour construire de vraies scènes de cinéma, établir des level design malins qui ne peuvent être terminés en bourrinant sur le bouton d'action. Même après l'avoir terminé il y a quelques dizaines d'années, Prince of Persia dénote toujours par la fluidité de son mouvement sur un décor simple, aussi bien sur un Apple II poussé dans ses derniers retranchements que sur les machines largement plus puissantes. Et depuis, le jeu a changé de dimension, est devenu une franchise, s'est complexifié et a tenté de nouvelles mécaniques. Et derrière, il y a un auteur. Entre nous, enfants du futur immédiat, on a voulu rendre hommage à ce créateur et comment sa carrière a évolué.